première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, bienvenue sur le Canu Info du lundi. Vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Attention, c'est parti, messieurs, dames, on y va.
Avec les titres, ce soir, plus de 700 interpellations en Russie après une manif. Donc la répression se poursuit. On ira ensuite, donc, pour l'international à l'ONU, où l'interdiction des armes nucléaires fait débat. Ensuite, on commémorera tous ensemble les 60 ans du traité de Rome. Et puis on ira voir un peu ce que la France fout dans le conflit au Yémen. Ensuite, on ira un petit peu au Vatican pour voir un peu ce qui s'y passe. Ensuite, pour le national, on va donc il y a un procès de militants néo-nazis, les White Wolf
Clan.
Donc là, on va vous en parler un peu.
C'est l'équivalent.
On va parler aussi du meeting de Marine Le Pen ce week-end à Lille. On va parler aussi de Total, qui est complètement dans la mélasse. Et la police qui tue encore. Et encore. Pour le local, on parlera de l'expulsion dégueulasse de migrants du parc du Sacré-Cœur ce jeudi là, à Lyon. Et puis d'une manifestation aussi ce week-end de... Pour les, je sais pas si on.
Bah pour ça. Les migrants,
pour
oui,
les migrants
oui,
et les sans-papiers.
Pas
papiers.
Contre, un pour. Oui,
voilà. Voilà. Et enfin notre petit dossier, notre grand dossier spécial sur l'île de la Guyane
à l'arrache.
Ce soir. À l'arrache, non, ça va être magnifique, j'en suis sûr.
Et bien sûr
le traditionnel
agenda.
Merci.
Alors sans transition, on va faire un petit tour du côté de l'est. Et oui, parce que 2017, 100 ans après la Révolution russe, l'ours slave, la Grande Russie, évangélisée par Méthode puis par Cyrille, d'où l'alphabet cyrillique, objet des plus purs fantasmes gauchistes, CCCP. 100 ans après, donc, que le monde si bien peint par Dostoïevski se soit effondré sur lui-même pour ensuite avorter le communisme, eh bien, ces hordes de prolétaires qui devaient, par leur sacrifice, engendrer un monde nouveau, peinent aujourd'hui à se réunir pour dénoncer la plus simple vérité, à savoir la corruption généralisée des élites russes. Alors, si le rêve russe d'une société revendicatrice est bien passé et trépassé, l'image d'Épinal qui en fait le tombeau de la liberté, notamment de la liberté d'expression, reste valable. Malheureusement, n'oublions pas que Poupoutine est un ex du KGB et que son programme politique tient en une phrase, hein, métaphore de l'avalanche, à savoir « je veux rétablir la verticalité du pouvoir ». Qu'est-ce à dire ? Eh bien, une corruption plus raisonnable qui ne profite surtout pas au plus grand nombre. Alors cela nous rappelle la super blague de Coluche qui aurait fait d'ailleurs un bon citoyen russe, les copains. Rappelez-vous, il essayait de nous définir le bonheur en URSS ainsi, à savoir, eh bien, le bonheur, c'est quand, à 4h du matin, t'as les Condés qui débarquent chez toi, qui tapent à la porte et qui disent « C'était ici Igor Plavolvitch ?» et que tu peux répondre « Non c'est en haut !» Car le bonheur, effectivement, en Fédération de Russie, reste une chose taboue. Preuve en est la décision du tribunal Tverskoï de Moscou qui vient de condamner aujourd'hui Alexei Navalny à 15 jours de prison ainsi qu'une amende de 20 000 roubles. Alors rassurez-vous, c'est que 325 euros, soit les trois quarts du salaire moyen de Russie, salaire moyen qui est passé de 900 euros en 2012 à 400 aujourd'hui. Ce qui peut d'ailleurs nous renseigner sur l'ampleur de la crise économique aggravée par les sanctions européennes que connaît la Russie aujourd'hui. Sans parler de la crise démographique, hein, ils ont perdu quand même 1 million d'habitants par an depuis la chute de l'URSS en Russie, et d'une manière plus générale de la misère, qui fait dire aux copains blagueurs qui vivent là-bas, comme ceux d'avant, que s'il n'y a pas de thunes, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien à acheter. Alors, Alexei Navalny, qui compte se présenter face au tsar Poutine à l'élection présidentielle de 2018, s'il est encore vivant, c'est lui qui est à l'origine de la mobilisation qui a réuni ce dimanche 26 mars des dizaines de milliers de personnes dans le pays, y compris dans les villes de province, habituellement effrayées par la répression terrible qui touche tout ce qui ressemble de près ou de loin à un opposant. Alors cette mobilisation, elle fait suite à un rapport publié par notre courageux Alexis Navalny, hein, fais attention quand tu descends les escaliers quand même, qui accuse le Premier ministre Dmitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier financé par les oligarques.
Alors, ces
oligarques, hein, on vous le rappelle, c'est une quinzaine de pélos qui, à la chute de l'URSS, ont récupéré toutes les infrastructures militaro-industrielles et qui, depuis, se gavent en assassinant et en exploitant tous ceux qui leur passent sur la main. Donc, malgré ces oligarques, malgré les interdictions dans 72 et 99 villes où étaient prévues des actions, eh bien les Russes sont sortis dans la rue. Et 7000 personnes à Moscou dans ces conditions, ça en fait quand même une mobilisation mastoc. Puisque l'organisation d'Alexei Navalny, le FBK, Fonds de lutte contre la corruption, eh bien, s'est mobilisé et a réussi à convaincre les gens de dépasser leur peur, hein, puisque cette peur est quand même réelle. Alors la boutique, le FBK, le Fonds de lutte contre la corruption, a été perquisitionné pendant les manifs. Et depuis sa tôle, Alexei ne s'en émeut pas et au contraire dit qu'il est fier de ses partisans, notamment des 933 manifestants qui ont été interpellés, dont 500 à Moscou, et trouve la réaction de l'État compréhensible, car selon lui, les voleurs se défendent de cette manière. Mais on ne peut pas arrêter tous ceux qui sont contre la corruption, nous sommes des millions. Et il a raison, hein, pas plus que l'on peut malheureusement arrêter ceux et celles qui profitent de la corruption, ou mieux les empêcher en Russie comme ailleurs, en France par exemple, hein, et oui aussi, hein, on ne peut pas arrêter les corrompus et les corruptions chez nous, pas plus qu'on peut les empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et la France justement, ah, on l'aime, hein, Alexei, le défenseur de la liberté, et on aime à contrario brocarder le méchant Poutine. De là à balayer devant notre porte, eh bien, il faudra suivre l'exemple des 933 personnes arrêtées.
Alors, pour continuer dans les blagues pas très drôles, il y a une conférence en tout cas qui s'est tenue aux États-Unis, à New York, sur l'abrogation en fait des armes nucléaires. Donc en fait, c'est 113 pays qui, pour la plupart, ne possèdent pas l'arme nucléaire, qui aimeraient demander en fait à ce que l'ensemble des pays du monde supprime les armes nucléaires, comme ça a été fait en fait autrefois pour les armes chimiques et pour différents types d'armes en fait qui sont heureusement maintenant interdites, enfin officiellement interdites. On les retrouve un peu partout, mais des grands pays en tout cas ne les utilisent pas de façon visible, ils sont pas officiellement dans leur armement. Donc on espère que, oui voilà, comme les armes biologiques depuis 72 et les armes chimiques depuis 93 qui sont interdites. Donc ce qui est en fait la versant comique de cette affaire, c'est qu'en fait ces 113 pays qui ne possèdent pas l'arme nucléaire demandent en fait au Conseil de sécurité qui possède pour à peu près chacun d'entre eux l'arme nucléaire de s'auto-censurer, de supprimer leur propre arsenal nucléaire.
Donc, ils ont dit oui ?
De quoi ? Bah non, pour l'instant en fait non, ils disent, enfin c'est plus qu'ils disent pas non, ils ont simplement dit dire qu'ils viendraient même pas discuter en fait parce qu'ils en ont rien à foutre, clairement. Donc en fait faut arrêter de rêver que ces gens-là coupent leur arme nucléaire, enfin il n'y a aucune raison vu que c'est à peu près ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle. Sud.
Donc ils ne suivent pas l'adage de Joey Starr qui dit « pose ton gun ».
Non, au contraire, justement, enfin, à l'heure actuelle, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on voit en fait tous ces pays qui dépensent, en fait, au lieu d'aider leur population, mais qui dépensent des milliards à rénover leur arsenal nucléaire, à refaire, à remettre de la peinture sur les bombes, on enlève la faucille et le marteau pour remettre la tête de Poutine, enfin ça coûte très très cher, et tout ça. Et donc en attendant, ben, en fait, les 113 autres pays se disent que ça sert à rien et que ça pourrait éviter une destruction totale de l'humanité et que ça pourrait être pas forcément si mal. Mais donc on espère une fois de plus que l'ONU va marcher, mais sauf que comme d'habitude on sait qu'en général ça ne marche pas, et puis même si ces traités là sont signés, en fait la Syrie nous montre que les armes chimiques et toutes les armes bactériologiques, ben, en fait sont totalement utilisées et que tout le monde s'en fout.
Voilà. L'uranium appauvri en Irak par les Américains.
Mais oui, non mais ah mais c'est là pour l'instant on parle de l'uranium lourd, donc l'appauvri on verra dans un second longtemps. Ce qui peut être drôle, c'est que les Coréens du Nord s'en foutent aussi royalement, de toute façon ils sont même pas à l'ONU, donc foncièrement je suis pas sûr que ça change grand chose. En tout cas l'argument principal c'est l'argument moral, donc ils espèrent faire en sorte que le fait de dire que c'est pas cool, bah, que les populations vont se mobiliser et forcer leur gouvernement à le faire. Ce qui est peu probable. Donc on espère, on souhaite bon courage à ces 113 pays, qu'avec un peu de chance ça partira peut-être au civil, enfin on verra bien, mais je suis pas sûr que ça sauve beaucoup l'humanité.
Après les armes de destruction massive, on va parler des armes de destruction chirurgicale. Vous savez, les rafales et tout ce genre de trucs là. Donc François Hollande vient de donner son accord pour vendre à l'Arabie Saoudite des armes en masse dans le cadre de la guerre au Yémen, où sunnites et chiites se déchirent. Donc le contexte, c'est que depuis près de 2 ans, le Yémen est en proie à un conflit interne entre le gouvernement de Sanaa et les rebelles houthis. Le conflit dépasse largement les frontières nationales puisque les puissances présentes au Moyen-Orient alimentent le conflit de leur soutien et se livrent une guerre par procuration. Dans les camps des houthis, c'est l'Iran chiite qui finance la guerre, tandis que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et soutenue par les États-Unis entend remettre en selle le président Abdrabo Mansour Hadi d'obédience sunnite. Les conflits au Yémen font rage et touchent sans distinction les combattants, les populations civiles, les hôpitaux et les écoles. Le nombre de victimes de raids aériens sur des hôpitaux est astronomique, à l'image de celui qui a fait 140 morts et 500 blessés en octobre 2016, ou celui perpétré par les États-Unis au mois de janvier dernier. Alors que les violations des droits les plus élémentaires sont monnaie courante dans ce conflit, que de nombreuses associations comme Amnesty International dénoncent l'implication des États-Unis et du Royaume-Uni dans la coalition, la France fait la sourde oreille à propos des souffrances des civils et n'écoute que l'appel des profits que la vente d'armes peut lui rapporter. Avec près de 20 milliards d'euros de matériel vendu en 2016, la France a battu son précédent record de 17 milliards atteint en 2015. Elle entend donc consolider sa place dans le trio mondial d'exportateurs d'armes. On notera que les relations commerciales en matière d'armement entre la France et la pétromonarchie du Golfe remontent pour la période récente à 2014. Le contrat d'ONAS signé par l'Arabie Saoudite et la France au profit du Liban s'est finalement mué en achat direct d'armes pour le compte du principal pays de la péninsule arabique. D'un montant de 3 milliards d'euros, il a déjà fait la joie des industriels français. Aujourd'hui, le contrat a été rebaptisé SFMC pour Saudi French Military Contract. C'est sur ce nouveau contrat que les Saoudiens ont entrepris de refaire leur stock d'armement pour une somme qui atteint actuellement les 450 millions d'euros, mais qui pourrait bien à terme représenter 1,2 à 1,4 milliards d'euros. En dépit de la ratification du traité sur le commerce des armes qui interdit la vente d'équipements militaires, s'il est avéré qu'ils serviront à perpétrer des violences contre les civils, la France finance bel et bien une guerre ouverte qui la conforte dans sa position de puissance industrielle et militaire d'envergure internationale.
Voilà, à préciser aussi que quand on regarde sur une carte le Yémen, on s'aperçoit que c'est très bien situé sur les détroits et que l'essentiel des produits manufacturés qui nous viennent de Chine passe au large de Yémen.
Et tu penses qu'Anguille sous roche ?
D'où les intérêts impérialistes des puissances et occidentales non. Et de la péninsule arabique.
Mais non.
Alors attention, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, le traité de Rome avec 2 jours de retard. Joyeux anniversaire, le traité de Rome avec 2 jours de retard. On s'arrête, c'est bon.
Ok. Ah non.
Donc oui, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis samedi dernier en Italie, donc il y a 2 jours, pour fêter jour pour jour les 60 ans du traité de Rome, acte fondateur de notre belle et magnifique Union européenne. Chacun leur tour, ces chefs d'État, après avoir salué Paolo Gentiloni, le nouveau premier ministre italien qui a remplacé Matteo Renzi, qui a perdu son référendum, rappelons-le.
Oh, pauvre.
Les chefs des 27 ont chacun à leur tour traverser la grande place du Capitole, dessinée par Michel-Ange, afin de signer un nouvel engagement solennel en faveur de l'Europe. Il y aura un 100e anniversaire de l'UE, a assuré le président de cette si démocratique Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Alors, ça méritait une ville de Rome en état de siège, des milliers de flics, des snipers, et l'intégralité de l'arsenal anti-émeutier et anti-terroriste de présent, des dizaines de milliers d'opposants étaient prévus, et surtout, ces méchants black blocs, habillés tout en noir, anarchistes et autonomes, comme nous le disent tous les médias, étaient prévus en masse, et ils ne sont que très peu venus, mais c'est pas grave, il y avait quand même le dispositif policier. Alors, qu'est-ce donc, plus concrètement, que ce chouette traité de Rome ? Revenons un peu dessus. Signé le 25 mars 1957 par la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux, puisqu'il faut dire Benelux, hein, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, il devait, je cite, « établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». Alors, dans les faits, le traité de Rome constitue une position claire dans le domaine de l'économie politique, soit la supériorité d'un ordre social fondé sur le principe de la libre concurrence, passant par la création d'institutions supranationales chargées d'appliquer cette conception capitaliste de l'économie.
Ouais, parce que les fondateurs et les rédacteurs du traité à la monnaie et compagnie étaient persuadés que pour unir les peuples, il fallait absolument se rappeler que les peuples étaient très très cons. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas décider par eux-mêmes, et il a été décidé de créer quelque chose de supranational, une Europe des technocrates, qui, justement, allait contourner cette connerie des peuples, hein, qui avait tendance eh bien, à ne pas leur faire confiance, pour pouvoir instaurer une technocratie.
Et qui plus est, cette fameuse libre concurrence, hein, cette création du marché commun, encore une fois, allait être bienfaiteur pour les peuples d'Europe, comme le disait Adam Smith à la Belle Époque, hein, avec une redistribution de cette main invisible du capitalisme. Alors, depuis que le traité de Rome et ses descendants, puisque le traité a des descendants, hein, il y a le traité de Maastricht en 92, le traité de Lisbonne, le pacte budgétaire, j'en passais des meilleurs, depuis que ces différents traités ont vu le jour, l'agriculture intensive on a fini de bouffer les petits paysans, la grande majorité des services publics ont été privatisés et mis en concurrence au profit direct des bourgeoisies nationales ou supranationales, les droits des travailleurs ont partout été attaqués, laminés pour les beaux yeux du patronat, les banques ont été massivement sauvées après la crise de 2008-2009, transférant la dette privée vers la dette publique. 400 milliards d'euros. Les parlements nationaux ont tous perdu de leur pouvoir, même si, qu'on se le dise, loin de nous l'idée de cautionner cette démocratie bourgeoise. Les référendums se sont tous fait laminer quand le vote majoritaire a été à l'encontre des intérêts de la bourgeoisie, c'est-à-dire toujours plus d'accumulation du capital. Hein. On a un nombre d'exemples à n'en plus finir du nombre de référendums laminés, des technocrates qui ont directement été placés à la tête de certains pays par la Commission européenne et par cette Troïka, puisque cette Commission européenne qui dirige l'Europe a des frères et sœurs à l'échelle internationale, j'ai nommé Fonds monétaire international et Banque mondiale. Grâce à l'Europe et au traité de Rome, les peuples souffrent plus qu'avant.
Mais ils sont cons, ce qu'ils tuent.
Voilà, le gros gavage sur l'Europe de l'Est.
Chaque fois qu'on leur demande, ils disent mal.
C'est vrai que, de fait, arrêtons de leur demander leur avis et leur point de vue. Ils se plantent, bordel.
Ah oui.
Et donc, ces peuples qui souffrent via ces politiques d'austérité drastiques qu'ils subissent, avec en premier lieu l'Europe de l'Est, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, finalement l'intégralité des peuples d'Europe. Grâce à l'Europe et au traité de Rome également, il y a Frontex, cette police milice européenne anti-migratoire qui fonctionne en complète opacité à coups de centaines de millions d'euros et fait gonfler les morts en mer Méditerranée toujours plus chaque année. On pourrait continuer assez longtemps sur cette
et qui construit des camps de concentration en Grèce et en Turquie.
Et qui favorise l'externalisation des frontières, qui paye des centres de rétention en Afrique du Nord par exemple, dans des conditions
où les
tortures sont assez régulières dans ces pays-là. Voilà. Alors, effectivement, souhaitons à nouveau un joyeux anniversaire au traité de Rome et à son Union européenne. Grâce à toi, entre autres, l'économie capitaliste se porte bien et ce, malgré la crise. Grâce à toi, la restructuration du capitalisme va bon train. En un mot, merci, le traité de Rome.
Super, ouais.
Hein? Youpi.
Youpi.
N'en buvez pas trop. Hein, quand même.
Après le traité de Rome, on va parler du traître de Rome. Ah là là.
Ou alors celle-là, quand même.
Celle-là, elle est pas mal.
Ouais.
Ah là là, on l'aimait bien, le pape François. Ses prêches enflammées s'achevant toujours sur le fameux Amen, anti-capitalista. Sa tolérance zéro vis-à-vis des affaires de pédophilie. On l'aimait bien, Francesco Le Rouge, le partisan d'avortement. Hélas, mardi soir, la télévision a révélé que le Che Saint-Père aurait, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, tenté de faire innocenter un prêtre jugé pour pédophilie. Quelle désillusion, orage, au désespoir. En fait, ils sont tous des bâtards. Même le très saint vicaire de Jésus, même lui.
Des pédophiles.
On a la boule à la gorge, j'ai envie de chialer, de crier très fort, de taguer partout. APAB, all pops are bastards.
Ou APAB.
On continue avec le national, n'est-ce pas ?
APAP.
On le prend par ce pédophile.
Avec le national, avec d'autres formes de... En fait, ils sont toujours en blanc, c'est assez drôle, en fait. Mais cette fois, ça ne sera pas le pape, qui n'est pas sa pureté, mais c'est d'autres gens purs.
C'est la couleur du guano.
Oui. Et on ne va pas vous parler non plus de Cro-Blanc, mais ça sera aujourd'hui, mais on va quand même vous parler de Caniche. Ça sera le White War Clan. Donc, c'est une armée de petits toutous, tout blancs vêtus, qui ne vont pas cramer des noirs en dansant autour d'une croix, mais c'est pas très très loin. La justice, en fait, a démarré un procès à Amiens qui a pour but de démanteler les clans picards de l'extrême droite picarde. Donc, avec une armée de bouffons finis qui n'ont pas trouvé mieux à faire de s'entretuer, en fait, depuis un certain temps pour prendre le contrôle de la Picardie. C'est tout dire, on a à quel point certains ont pu en arriver bas, mais c'est pas grave. Donc, en attendant, ils doivent répondre de 35 infractions, dont notamment des violences à des armes, des dégradations de biens, notamment par incendie et vol aggravé, commis entre 2011 et 2012, et enfin plein d'autres faits, enfin notamment des règlements de compte en interne, c'est ça en fait un des trucs les plus drôles, c'est qu'ils ont sûrement plus fait de dégâts entre eux qu'à l'extérieur. Donc ces mecs-là, pour que tout le monde les situe, enfin au niveau national, en fait, un certain nombre sont quand même extrêmement connus. Il y a notamment le chef de ces abrutis, enfin un de ces chefs, s'appelle Serge Ayoub, qui est donc Serge Ayoub, un grand inconnu. Et d'autres personnes avec lui sont plusieurs prévenus, sont partisans d'un truc qui s'appelait la Troisième Voie, une organisation qui a été dissoute en juillet 2013, notamment en fait suite à la mort, enfin à l'assassinat plutôt de Clément Méric en juin 2013 à Paris. Donc ce groupe dirigé donc par Serge Ayoub, et je suis en train de faire sauter toute ma page, c'est génial, donc alias Batskin, parce que oui, non.
Ah bah, ce Batskin, on peut rappeler quand même qu'il est, qu'en plus d'être très con, il est quand même recherché au niveau européen pour trafic d'amphétamines, hein, parce que c'est pas les discours qui leur permettent de s'amuser, c'est quand même la drogue. Et également, qui nous a fait tous bien rire en associant l'affaire Méric à une nouvelle affaire Dreyfus, rappelez-vous, quand il criait au scandale et en disant que les victimes, en fait, c'était eux.
Oui, et notamment, il s'appelle Batskin parce que son arme favorite est la batte. Donc voilà, c'est vous dire le niveau de du personnage. C'est donc l'ancien chef des skinheads d'extrême droite parisienne et des jeunesses nationalistes révolutionnaires.
Dont et dealer d'amphétamine.
Et dealer d'amphétamine, mais ça, on l'oublie toujours. Était membre dans ce groupe, donc il y avait un membre qui s'appelle Jérémy Mourin, qui s'est depuis été affranchi de Serge Ayoub pour fonder un autre clan, donc c'est White World Clan. Aux côtés d'un dernier bouffon qui s'appellerait Jérôme Bailly. Alors non, c'est sur le net, c'est génial. Il est donc reproché à Serge Ayoub de lui avoir ordonné l'ordre d'attaquer un groupe rival en 2012 pour lequel Ayoub est poursuivi pour complicité de violence aggravée. Donc oui, en fait, ces mecs-là en fait, s'emmerdent tellement qu'ils s'entretuent entre eux.
Attends, il y a quelqu'un qui l'avait traité de sale juif.
Certes, c'est possible, oui, mais enfin, moi, je me souviens. C'est pas Ayoub qui, justement, voulait en prendre la place d'un autre, massacrer son rival, non? Ou c'est peut-être un autre taré de ce genre-là. Bon, je t'avoue, j'ai pas. Un jour, on s'y intéressera. Bon, en attendant, l'information qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'avec un peu de chance, en fait, la plupart de ces abrutis vont finir en tôle et qu'on en sera débarrassé pour quelques temps. Parce qu'il y a ils sont quand même 16.
Ou alors c'est le prochain ministre de l'Intérieur.
Hein. Ou c'est le prochain ministre de l'Intérieur. Oui, non,
parce que bizarrement, les remises de peine, elles vont vite.
Bah, en tout cas, ils ont été dénoncés. Déjà, ça a été reconnu le fait que ça soit des abrutis, c'est déjà pas mal. Après, on verra bien ce qui va en suivre. Et en attendant, bah, je sais pas, enfin, dites ce que vous en pensez. Hein. Les bienvenus.
Non, mais on verra au moment de la situation révolutionnaire ce qu'on en fera, mais on va pas non plus cautionner la tôle.
Ah non, ça oui, non, surtout pas. Ça, par contre, bref, le débat n'est pas là. Surtout pas, oui. Mais
justement, puisque nous parlons de l'extrême droite.
Oui, qu'est-ce que tu fais en fait si tu ne le mets pas en tôle?
Bah, tu veux qu'on en débatte
ouais,
comme ça
bah ouais, carrément, au pire, on a du temps aujourd'hui.
On leur donne des cours de rattrapage. Voilà,
c'est non, mais moi aussi, je suis pas pour la tôle, mais juste, ça pose comme des questions. Qu'est-ce qu'on va faire?
On leur donne des cours de rattrapage.
Mais en attendant, en tout cas, il y a des liens directs entre ces abrutis et la grande cheftaine des abrutis, Marine Le Pen, et dont ils ont fait plus ou moins le service d'ordre à une époque, et où, dont, en tout cas, ils sont très proches politiquement. Et Marine Le Pen, qui est donc la face visible de cet iceberg, et qui était donc en meeting à Lille.
Voilà, le meeting de Marine Le Pen.
Alors, pourquoi s'arrêter sur ce meeting plus qu'un autre? Eh bien, car elle a sorti quelques perles. Bon, vous me direz, elle en sort régulièrement. Alors, ce meeting, plus de 5000 personnes hier au Zénith de Lille. Les manifs étaient interdites dans tout le périmètre autour du Zénith par le préfet des Hauts-de-France, comme d'habitude. Et ce meeting fut particulièrement électrique. Nous avons rendez-vous avec l'histoire, leur a dit Marine. Un vrai stade de foot, on se serait cru dans un vrai stade de foot avec des cris « On est chez nous, on va gagner !» Bon, alors hormis les traditionnels sujets anti-migrants, ultra-sécuritaires, les sujets phares hein, du Front National, Marine Le Pen a tapé dans l'international, ce qu'elle ne fait pas souvent ni systématiquement. Alors voici ce qu'elle dit. Les représentants de l'ordre ancien ne sont plus entendus, a-t-elle lancé. Moi, j'ai rencontré le président libanais, le président tchadien, le président russe Vladimir Poutine, de vrais hommes d'État. Ovation dans la salle, la salle était en délire. Vive Idriss Déby, ce dictateur sanguinaire tchadien au pouvoir depuis 1990, chef de file de la France-Afrique, placé par la France pour les appétits impérialistes de cette dernière. Ça, c'est un vrai représentant, nom de l'ordre ancien.
C'est un Français.
Bam, vive Poutine au pouvoir et à la tête de la Russie depuis 1999. Homme d'État autoritaire, on en a parlé tout à l'heure, corrompu et richissime, qui enferme les opposants politiques, interdit les manifs, forme des ministres nationalistes, etc. Ça, c'est pas un représentant de l'ordre ancien non plus. Moi, j'ai vu des gens qui sont des nouveaux. Hein. Et attention, ça fait toujours plaisir d'entendre ce qui se dit dans les meetings Le Pen. Hein. On est bien content d'avoir eu ces informations-là.
Ouais, merci Marine Lapine.
Alors, parlons d'ordures encore et toujours. Cette fois-ci, ordures environnemental, c'est ça? En fait, l'action se passe à la Défense. Alors, il y a eu 3000 litres de mélasse qui ont été déversés sur la tour Total. Action faite par Greenpeace aujourd'hui même. Et oui, Greenpeace a déversé cette mélasse pour dénoncer un projet de l'entreprise la plus green Total est la société britannique labellisée BioBP qui veulent effectuer en Amérique du Sud au large des côtes nord du Brésil, plus exactement, des forages bio, hermétiques, sécurité et non infamables de pétrole. Donc le problème pour Greenpeace et pour l'environnement en général, c'est que c'est des puits qui se trouvent tout près du récif de l'Amazone. C'est un biome unique que nous avons pu documenté, fait de différentes espèces de coraux, d'éponges et de rhodolites, où vit une quantité incommensurable de poissons et autres espèces marines, dont certaines seraient inconnues jusqu'alors, explique l'ONG sur son site. Donc Greenpeace estime que le récif serait menacé par un risque de marée noire, mais également que tout l'écosystème de l'embouchure de l'Amazone pourrait être bouleversé. Donc il faut savoir que la zone de l'Amazone est déjà bien abîmée par l'avidité humaine et capitaliste, par l'orpaillage, le déboisement des bois rares, mais aussi par la reconversion en culture d'huile de palme. Donc l'Amazonie, poumon de plus en plus malade de notre planète.
Et on va terminer ce déluge de mauvaises nouvelles. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore d'autres après, je pense, mais avec la police qui a encore tué. Donc la police vient encore de tuer. Appelés pour un différend familial, les forces de l'ordre sont intervenues dans une habitation du quartier Curial, dans le 19e arrondissement à Paris. Selon le Parisien, les policiers ont dû forcer la porte après avoir entendu les cris à l'intérieur. Un homme d'une cinquantaine d'années et d'origine asiatique serait alors précipité sur eux armé d'un ciseau. Heureusement, l'un des policiers présents aurait alors ouvert le feu pour protéger son collègue, blessant mortellement l'agresseur, a ajouté une source citée par l'AFP.
Les ciseaux sont encore vivants.
Bien sûr. Le Parisien précise que la victime était connue pour son alcoolisme et ses troubles psychiatriques Et voilà, 10 par an, c'est en moyenne le nombre de personnes qui décèdent des balles et de la brutalité de la police. On notera à propos du titre de l'article à ce sujet dans le Figaro, je cite, « Un policier, Paris, un policier blessé à l'arme blanche », c'est tout. Ah oui, c'est vrai, c'est la fameuse légitime défense, celle qui nous tuera tous.
Alors, on continue, attention, vous êtes toujours sur Radio Canu,
la plus rebelle des radios, 102.2,
à Lyon et environ, et partout dans le monde sur Internet. Donc on va démarrer là maintenant, en fait, bah, vu qu'on a, on a reporté un autre dossier, puis on s'est dit qu'on allait coller un peu à l'actualité, on va vous faire un numéro spécial sur la Guyane pour un peu soutenir tous les copains et essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe malgré le bordel que les médias peuvent nous raconter. Et pour démarrer de tout ça, bah, on va commencer par une petite chanson des environs, et puis on verra bien.
Il me semble qu'on a oublié le local. Peut-être qu'on va faire passer le local avant la Guyane.
Ouais, c'est vrai, oui, pardon.
Alors on est désolé pour cette voix off très sexy, mon cher Benjamin, qui a annoncé le dossier de Guyane. Mais nous allons partir sur l'expulsion dégueulasse des migrants au parc du Sacré-Cœur jeudi.
Alors, 23 mars. Ce parc du Sacré-Cœur s'appelle d'ailleurs le Square Baraban. Alors on va revenir dessus puisque c'était particulièrement détestable. Toute expulsion est détestable. Parfois le contexte renforce le côté détestable d'une expulsion. En l'occurrence, jeudi 23 mars, le préfet du Rhône a décidé d'expulser donc le Square Baraban, occupé par une centaine de demandeurs d'asile albanais, parmi lesquels figuraient 45 enfants, dont le plus jeune n'avait que quelques mois. Alors effectivement, ce soir-là, c'était probablement le pire des soirs pour expulser. C'est probablement pour ça que le préfet a décidé de le faire ce soir-là. Il pleuvait des cordes, il y avait de l'orage, il faisait froid. Et donc, c'était le moment idéal pour que tous ces gens se retrouvent à la rue et que leurs affaires soient en grande partie détruites. Donc, toute la journée, ces gens se sont retrouvés dehors. Il y a une occupation de la mairie du 3e arrondissement dans l'après-midi. Cette occupation s'est finalement fait jeter de la mairie du 3e par les forces de l'ordre. Et à 21h, toujours, 70 personnes, dont de très nombreux enfants, a été toujours à la rue sous une pluie battante. Il a fallu donc que ce soit à l'arrache et qu'il soit placé dans une ancienne gare à Villeurbanne. Évidemment, le lendemain matin, donc les forces de l'ordre sont intervenues et les ont expulsés à nouveau. Ils ont au moins pu passer une partie de la nuit au sec, probablement dans le froid malgré tout. Et depuis, ils occupent un nouveau parc. Mais en tout cas, ni leur situation n'est réglée. On incite les gens à être solidaires avec les migrants le plus possible, parce que là, c'était une nouvelle fois terrible pour ces migrants-là.
Et juste pour compléter là-dessus, sur dans la catégorie enfin, journée, nuit des horreurs, enfin, les témoignages qu'on a pu avoir de l'occupation de la mairie du 3e étaient assez affligeants, notamment sur le comportement. Enfin, on va pas inventer grand-chose, mais le comportement des forces de l'ordre. En fait, toutes les familles, notamment avec des gamins qui pouvaient avoir les plus jeunes jusqu'à 3 mois, en fait, étaient donc en train d'occuper une partie de la mairie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les forces de l'ordre, en fait, déjà, leur ont interdit d'aller aux toilettes, au point qu'un certain nombre d'enfants en fait, se sont fait dessus, et que les flics n'ont pas trouvé mieux à faire que rigoler en faisant des comparaisons animalières qui était vraiment d'extrêmement en mauvais goût, et qu'on leur a empêché en fait aussi de boire, de manger, que les camarades qui ont essayé de leur passer de la nourriture par les fenêtres, en fait toute nourriture s'est fait confisquer immédiatement, que pour un certain nombre d'entre eux, en fait évidemment, enfin dans les mairies on ne peut pas fumer, mais pourtant les forces de l'ordre n'ont pas trouvé mieux à faire qu'allumer leur clope et fumer à la gueule des gens pour y faire chier quoi. Et notamment en fait on a pu voir un certain nombre de scènes extrêmement racistes et islamophobe, en fait, quand des femmes voilées d'une association du coin sont venues en fait apporter du lait pour les enfants, où les flics ont commencé à se foutre de leur gueule ouvertement devant la mairie, quoi. Donc une fois de plus, les forces de l'ordre nous ont montré leur génie et leur intelligence à gérer une bonne situation.
Et la, Cab.
Et la beauté de la France, comme en 40.
C'est ça. Bon, alors au local, on en est où là? On a d'autres sujets ou
alors,
pas?
Au local, la manif de samedi, où on n'était pas très nombreux.
Samedi, effectivement, il y a une manif, donc c'est sur ce sujet-là, justement, solidarité avec les migrants, pour la liberté de circulation, d'installation, la régularisation de tous les sans-papiers. Il y avait 200...
Ouais, au moins 300. 400. Non, ouais, 400, la presse mainstream dit 400.
C'est du côté de la police, ce coup-là, j'avoue. Même pire.
Allez, un petit titre et le dossier.
Et donc le dossier, là où j'étais tout à l'heure, on va partir à la Guyane, dans les îles, et donc pour ça, on va commencer par...
Ah
un peu de musique.
Ah,
Juice Cartel. You know we the stars. We got the jewels, the house, we got the cars. The high grade weedy, the Benz them speedy. From Portmore City to Uptown, me no specialize if she black or she brown. Tight, tight, girl eligible fi stick around. I know nothing, bring your girls and bring your girls and. From Portmore City to Uptown, me no specialize if she black or she brown. Tight, tight, girl eligible fi stick around. I know nothing, bring your girls and bring your girls. This is a customized design for my wife. The type we describe is right for my life. She got to be clean, she must be ST. But at the same time, can bust the 60. Nah, me when niggas. I pressure my girlfriend. Shoot me there behind bars, not the general pen. She said,
Adios, Igiri. Show you the IGL in my look, me.
Hey, me need a girl we been to high school. Pretty dunks get a bounce, the talks not like fool. No, me a bully, your body better ready. Cause me no wanna gal we, to team man already. We so rich, oh, him fi take me. She fi genuine like leather, she fi never sweet. Yeah, me and her closer than close and color. Me fi love her, fi tucky. From Portmore City to Uptown, me no specialize if she black or she brown. Tight, girl eligible fi stick around. I know nothing, bring your girls and. From Portmore City to Uptown, me no specialize if she black or she brown. Tight, girl eligible fi stick around. I know nothing, bring your girls and. Bite it if you want, girl. Kiss it if you want to. Secret me keep like Victoria, no talk to nobody about our bedroom antics. Nothing about the chains and the ropes and the whips. This is Vice Club. Yeah. Nigga with the pride. So you sure say you must come whenever we ride. Yep. Anything goes when the two of us rolling. High grade rolling. Rasta, Christians, Arabs and Jews. Me no care as long as we no play by the rules. Know that it's all about conscious living every day. And remember, no giving away. From Portmore City to Uptown, me no specialize if she black or she brown. Tight, girl eligible fi stick around. I know nothing, bring your girls and.
Et voilà, c'était un air très typique de la Guyane. Et maintenant,
un commentaire, Pierre-Antoine.
Presque l'hymne national là-bas. Et maintenant,
c'était Vibes Cartel, un Jamaïcain qui fait du bon son, même si les paroles ont tendance parfois à attirer la jeunesse de Guyane vers un mode de vie un peu gangsta. Parce que effectivement, pour les jeunes d'aujourd'hui en Guyane, c'est compliqué, et la Guyane aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, il y a beaucoup de peuples, on reviendra dessus. Et tous ont une histoire tragique, mais en dernier ressort, ce que ces peuples de Guyane partagent tous, et également ce qui les divise, c'est la colonisation. Car il ne faut pas s'y tromper, la Guyane française, contrairement au Suriname et au Guyana voisin, sans parler du Brésil, c'est encore le bon vieux temps des colonies, comme dit l'autre sardine, le temps de l'incurie, des fortunes vite faites et des gabegies, la ruée vers l'or et vers l'espace aussi, avec les cow-boys, les indiens, la drogue et la prostitution, l'alcool aussi, qui coule plus abondamment que l'Oyapock ou le Maroni. Mais surtout, c'est l'avant-poste de l'impérialisme français, le lieu privilégié des ignominies de l'État avec son lot de projets, d'évangélisation et surtout, c'est la France. La France en pleine jungle, perdue sur un plateau de l'Amazonie. La France éternelle qui, depuis plus de 500 ans, répand généreusement ses valeurs civilisatrices et l'argent public, arrivant même à empoisonner les caïmans et les serpents. Alors, si Général de Gaulle, qui s'est pointé pour rafler tout l'heure dans les années 40, a eu cette petite vacherie, ce petit jeu de mots de Visclar, pour ce qui était alors essentiellement un bagne, l'enfer vert de Dreyfus et des voleurs de pain, eh bien ce de Gaulle, il nous dit, la Guyane est une terre d'avenir et elle le restera. Alors mon Général, ainsi que la plupart des hommes politiques de la métropole, ne s'y trompaient pas, hein, en évitant de relater le glorieux passé de cette terre de souffrance.
Alors, son passé, justement, on va en parler un petit peu, car pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé ces dernières années, il faut connaître un petit peu son histoire, cette Guyane. La Guyane, deuxième plus grande région de France actuellement, avec ses 83 846 km², est une colonie française depuis plusieurs siècles déjà. C'est au début du XVIe siècle que les premiers colons français s'installent, mais la présence française devient réellement durable à partir de 1643 et la fondation de Cayenne, fondation donc par des Français. Mais dans cette première moitié du XVIIe siècle, il y a au moins 10 tentatives de colonisation et de création de colonies, notamment menées par les Hollandais, les Britanniques et les Français, finalement les chefs de file de la colonisation et de l'impérialisme de cette époque-là, qui s'affrontent d'ailleurs, mais toutes ces tentatives échouent, notamment grâce à la résistance et la bonne connaissance de terrain des populations autochtones. Dès 1656, les premiers esclaves africains sont amenés de force en Guyane par les Hollandais, car la Guyane est une terre d'esclaves. Et en 1664, la Guyane devient française, la France écrasant par la force les résistances à la colonisation et les autres colons. Et puis voilà, la Guyane, c'est un gros pied en Amérique du Sud, à cette époque déjà. C'est l'exportation de coton, de canne à sucre, de café, de vanille, de bois exotiques, d'épices, etc. Et surtout, comme je le disais, c'est une colonie esclavagiste. En 1685, ce système esclavagiste est régi et organisé par le fameux et terrible Code Noir, grâce à un certain Colbert et Louis XIV. Tout au long du XVIIIe siècle, les conflits sont nombreux entre la colonie portugaise du Brésil, pour des histoires de frontières évidemment, mais aussi avec les Britanniques qui occupent d'ailleurs la Guyane deux fois dans les années 1870 et 1880. Et puis, paf, Révolution française. Loin de remettre en cause les colonies, les bourgeois de la Révolution font de la Guyane un lieu de déportation politique. Alors, petit nota bene, en 1794, l'esclavage est aboli dans toutes les colonies avant d'être rétabli par un certain Napoléon Bonaparte en 1804 et à nouveau aboli pendant la Révolution de 1848.
Et réinstallé par Napoléon III.
Exactement. Alors cette période napoléonienne va provoquer l'occupation de la Guyane par les Portugais jusqu'à 1815, période qui va d'ailleurs marquer le créole guyanais, intégrant de nombreux mots portugais dans son vocabulaire, notamment le mot marron, esclave en fuite, qui va donner naissance au peuple des Noirs marrons.
Alors là, il faut peut-être insister sur la création de ces peuples. Donc les esclaves qui venaient d'arriver, qu'on appelait les bossals, et qui en fait étaient souvent des gens normaux, qui vivaient soit dans l'Empire mandingue ou soit dans divers pays d'Afrique. Quand ils arrivaient, très vite, les plus résistants, ceux qui avaient réussi à conserver des forces pendant le voyage, arrivaient à s'enfuir tout de suite. Et ces esclaves qui se sont enfuis ont réussi, avec l'aide des Amérindiens qui connaissaient déjà les colons et qui avaient déjà eu maille à partir avec eux, ils ont réussi à recréer des nouvelles sociétés, d'accord, qui, avec des gens qui venaient de nationalités très différentes, la Guinée, le Mali, etc. Et ils ont réussi véritablement à créer de nouvelles sociétés, de nouveaux peuples qui, sur fond de colonisation et de chasse un peu généralisée aux bagnards, aux noirs, etc., ont prospéré, se sont installés et sont encore présentes aujourd'hui. On les appelle généralement en Guyane les Bushinengue, les noirs de la forêt.
Voilà, donc on est en 1815, Napoléon perd le pouvoir. C'est la fameuse restauration monarchique, la Guyane est rendue à la France du coup. Alors on accélère un petit peu, on arrive à la moitié du 19e siècle. Et pourquoi cette moitié du 19e siècle est importante dans l'histoire de la colonisation de la Guyane? Puisque les colons découvrent de l'or en Guyane. Et donc c'est le début d'une ruée vers l'or impressionnante, surtout à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Autant dire qu'à partir de ce moment-là, la Guyane prend d'autant plus d'importance pour la France. Qui plus est, de 1852, merci donc à Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, à 1946, la Guyane est le lieu de déportation pour la plupart des condamnés hommes aux travaux forcés.
Ce qui a inspiré un super tag sur la route qui va de Rémire-Montjoly, banlieue chic où les flics et les militaires emmènent au resto les prostituées mineures, vers Cayenne, donc super tag qui dit « La Guyane,
ça vous bagne ». Excellent. Alors, en 1946, on continue, on avance, la Guyane devient un DOM, donc une colonie toujours, mais avec un statut de département d'outre-mer, donc une intégration totale à l'État français. En 1965, le général de Gaulle fait construire le centre spatial guyanais à Kourou, et qui devient l'immense fierté de la France.
Un vrai corps.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les programmes scolaires, les élèves doivent apprendre que la Guyane, c'est Ariane, principalement.
Cocorico.
La Guyane, c'est Ariane. Alors, entre 1961 et 2011, la population guyanaise passe de 33 000 à 206 000 habitants. Et ça, ce n'est pas un simple détail dans ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, la composition de la Guyane est très complexe Elle est composée de 25 ethnies ou types de populations différentes avec leurs langues et leurs coutumes qui sont elles aussi différentes. Et on va se permettre, pour une fois, de les énumérer puisque la plupart sont inconnues et sont niées et subissent des discriminations spécifiques.
Alors on a les Wayana qui sont des dits amérindiens et qui parlent le Wayana. On a les Kalina qui sont des amérindiens également et qui parlent le Kalina. On a les Arawak, qui sont dits des Amérindiens et qui parlent l'Arawak également. On a les Émerillons, qui sont également des tribus autochtones et qui parlent l'Émerillon. Voilà. Alors évidemment, ce sont les populations qui souffrent le plus et depuis le plus longtemps en Guyane. C'est un ethnocide. Voilà. Hein, c'est une catastrophe. C'est totalement terrible. Ensuite, on a les Guyanais dits mulâtres, qui parle le créole guyanais avec une base française. Ensuite, on a les Haïtiens qui parlent le créole haïtien. On a les Djouka, d'accord, qui sont des Bushinengue, donc issus qui se sont libérés eux-mêmes. Hein, ils n'ont pas attendu qu'on les libère, ils l'ont fait tout seuls. On a les Guyanais blancs, d'accord, Béké ailleurs et qui parlent le créole guyanais. On a les Surinamiens créoles qui parlent le créole Sranan-Pongo avec une base anglaise. On a les Chinois, Aka. On a les Indo-Caribéens qui parlent l'Indoustani-Caribéen. On a des Brésiliens blancs qui parlent le portugais. On a les Saramaca qui sont aussi des Bushinengue qui parlent le créole Saramaca. On a des Latino-Américains qui parlent le portugais et qui viennent du sud du Brésil. On a les Afro-Guyanais qui parlent le créole guyanais. Les Carabéens javanais qui parlent le javanais caribéen. On a les Kalinas qui parlent le Kalina. On a les Arabes libanais parce qu'il y a pas mal de Libanais qui parlent évidemment libanais. On a les Wayampi, d'autres Amérindiens. On a beaucoup de Péruviens aussi, et des Palicours, qui sont également des Amérindiens. Et pour finir dans l'originalité, eh bien, on a les Hmong. Alors les Hmong, il faut savoir que c'est un des hasards de l'histoire qui fait que cette ethnie qui avait soutenu le camp occidental dans la guerre du Vietnam, eh bien, suite à la répression terrible quand les forces américaines se sont retirées, on saisit pour une part, c'est des montagnards
du Laos.
Voilà, du Laos. L'offre de Valéry Giscard d'Estaing de les reloger entre guillemets en leur offrant entre guillemets également des terres en Guyane pour qu'ils les mettent en agriculture, ce qui évidemment ne marche pas très bien. Et pour finir, on a oublié un peuple dans tout ça et qui est le français métropolitain. Qui malheureusement passé les 40 ans a une appellation un peu triste en Guyane, à savoir vieux blanc sale.
Alors, suite à cette longue mais nécessaire énumération, un petit point sur cette guerre de l'or. Puisqu'entre 1950 et 1990, cette guerre s'affaiblit. Mais à partir de 1993, pour que tout se relance avec la découverte de nouveaux gisements par des bonis qui s'enrichissent très vite et vont faire venir clandestinement des Brésiliens, et bien cette guerre de l'or se repart et relance, et les embrouilles recommencent entre sociétés minières. Rixes, bagarres, coups de couteau, coups de feu sont alors monnaie courante, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. La guerre de l'or fait des ravages absolument considérables en Guyane, avec évidemment la préfecture et la police qui sont corrompues en lien avec ce trafic. Et donc on va partir maintenant sur ce début de mouvement qui n'est pas une surprise, hein. Les émeutes en Guyane et les mouvements sociaux, il y en a eu énormément ces dernières décennies.
Il y a six mois, ils ont failli prendre la sous-préfecture à Saint-Laurent.
Et on n'a pas besoin de les énumérer maintenant pour savoir que le contexte est explosif en Guyane depuis très longtemps déjà.
Pour vous mettre au courant du niveau des politiques français, pour voir s'il y en a, je vais essayer de vous passer un petit extrait pour le dernier discours d'un célèbre copain local. Enfin, on va voir si ça marche.
Alors. En Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements. Et donc, mon premier mot est celui d'un appel au calme. Parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation.
Alors bien sûr, tout le monde lui est tombé dessus à cause qu'il a dit que c'est une île, alors que c'est pas une île. Mais en fait, juste ce qu'il dit, c'est quand même une horreur totale.
C'est incroyable que ce type soit capable de balancer une telle erreur, quoi.
Bon, alors que Macron dise des conneries, moi je trouve
c'est vrai,
que
t'as raison. C'est je suis trop gentil avec lui en fait. Non,
c'est
t'as raison.
Banal.
Je trouve ça, voilà, je trouve ça
raison, mais bon.
Pas particulièrement choquant. Et malheureusement, la moindre de ces erreurs n'est pas du tout d'avoir confondu la Guyane avec, par exemple, la Guadeloupe ou la Martinique.
Ou la Réunion, là où il est, en fait.
Voilà, ou la Réunion, là où il est.
Je pense qu'il en
alors, bien. Effectivement, la Guyane, c'est pas une île au sens géographique du terme, puisque bah, y a de la terre autour, hein, et non pas que de l'eau. Par contre, elle fait bien partie de l'ensemble dit des Caraïbes. Et surtout, vu que sa frontière est avec le Brésil à l'est, constituée par un fleuve, l'Oyapock, dont un seul petit pont qui a coûté très cher, qui a été construit sous Sarkozy, décidé des dizaines d'années auparavant et inauguré très récemment, et à l'ouest avec le fleuve du Maroni, d'où le nom Saint-Laurent du Maroni, et au sud une forêt totalement impénétrable. On ne parle pas d'île, mais on peut parler d'enclave. On peut parler d'enclave, et effectivement c'est un territoire qui n'est pas connecté avec ses voisins, malheureusement. Ça serait une source d'autonomie et d'indépendance qui serait souhaitable. Notamment la connexion avec le Suriname, où les échanges aussi bien culturels qu'économiques sont très forts et permettraient aux deux pays de sortir de leur soumission aux métropoles. Alors aujourd'hui, la Guyane, c'est compliqué. Alors, comme l'a dit le camarade tout à l'heure, c'est compliqué avant tout d'un point de vue démographique. Il faut savoir que c'est une colonie que les pouvoirs de la métropole ont essayé désespérément de peupler, comme ça se faisait à l'époque, hein, des colonies de peuplement. Ça, c'est une marque de fabrique française, hein, où on essaye d'exporter notre modèle tout pourri. Et donc, du coup, ils n'ont jamais réussi. Hein. Tant et si bien qu'après 500 ans d'efforts, il n'y a que 30 000 personnes qui vivent en Guyane. Si on fait le compte des morts, là, on arrive à une démographie urbaine tout à fait normale. Par contre, à partir des années 60, avec la vaccination, avec l'industrialisation, avec les nouveaux protocoles médicaux et le bâtiment standardisé, eh bien, de 1960 à 2011, on passe de 30 000 environ à 200 000 officiellement, mais avec les sans-papiers, avec les migrants, etc., on compte presque 350 000 personnes en Guyane. Donc la population en 50 ans a été multipliée par 10. Sans compter le taux de fécondité aujourd'hui des femmes guyanaises, qui est un des plus hauts du monde, 6,4 enfants par femme, ce qui fait que la population est susceptible de doubler tous les 10 ou 15 ans, ce qui fait une situation assez incontrôlable. Alors également, 40% des jeunes qui sortent du système scolaire ne sortent avec rien d'autre que le brevet. Et il faut voir dans quelles conditions il est enseigné. Et 40% de ces jeunes, les jeunes de moins de 25 ans, ça représente plus de la moitié de la population. Donc l'accès aux services publics, pour ceux qui n'ont pas l'argent, il est inexistant. Et pour ceux qui l'ont, il est quand même difficile. Un des bons exemples, par exemple, c'est des bébés qui sont morts d'une infection nosocomiale il n'y a pas longtemps, par manque de moyens, par manque de personnel, etc. etc.
Donc, autre exemple dans l'éducation, il y a bon nombre d'enfants qui ne parlent pas français et qui pourtant vont à l'école et ont des profs qui leur parlent en français. Donc, c'est, en fait, ils n'ont absolument pas la possibilité de comprendre ce qu'on leur raconte.
Voilà, on a à la fois une situation extrêmement immanente, où on a des cultures très différenciées, très affirmées, qui émergent, qui essayent de vivre, et de l'autre côté, une culture aveugle, qui essaie de s'imposer, la culture française, qui ne tient aucun compte de la variété, qui ne peut pas en tenir compte, parce qu'elle ne la connaît pas, de toute manière. Et donc, du coup, on observe des situations totalement ubuesques, où on apprend nos ancêtres, les Gaulois, à des gens de 14 ou 15 ans, qui sont en 6e, et qui ne savent pas parler français. Et voilà, donc ça se retrouve aussi dans le bâtiment. On construit du bâtiment standardisé dans un pays où il fait chaud et humide toute l'année, ce qui fait que le bâtiment moyen, si jamais c'est la nation française qui l'a financé, bah, il peut se retrouver être obsolète au bout de 10 ans, tout moisi, tout pourri. Les infrastructures, c'est valable, mais c'est valable aussi pour les gens qui sont surpayés. Par exemple, un professeur qui ferait ses études en Guyane, qui aurait son concours en Guyane et qui enseignerait en Guyane serait payé comme un Guyanais, alors que n'importe qui d'autre qui se pointe de Lyon, d'accord, de Dijon, de Strasbourg ou de Grenoble, eh bien il va toucher une petite prime de 40 000 euros en 4 ans.
Et du coup il peut accéder à la propriété à 34 ans.
Ça fait monter, ouais. Ça fait monter tous les prix, évidemment, et surtout le professeur issu de la Guyane sera moins payé
que le professeur issu de la métropole. Donc, toutes ces inégalités, parce que quand les manifestants d'aujourd'hui qui bloquent la Guyane, ils parlent de retard structurel, là, il faut vraiment les entendre, parce que c'est vrai. Il faut s'imaginer, en fait, la rage avec laquelle la bureaucratie française, elle essaye d'imposer depuis 100 ans des normes, et ce, dans tous les domaines de l'existence, alors que les normes françaises ne sont pas applicables en Guyane.
Alors là, on va aller un petit peu sur le mouvement dont nous parlent les médias, d'aussi loin qu'on est, pour essayer de percevoir et de comprendre ce qui s'y passe. Alors, les faits remontent à plus d'une semaine, hein, une vingtaine de barrages, donc il y a une bonne semaine, ont bloqué les principaux axes routiers et le port de commerce. Les établissements scolaires et la plupart des administrations sont fermés depuis jeudi dernier. Les stations-service sont à sec ou au bord de la pénurie. Et les vols d'avion ont été annulés. Tout a commencé à Kourou le 20 mars avec les barrages, puis s'est étendu à l'agglomération de Cayenne, à Saint-Laurent dans l'ouest, puis dans des communes isolées dans les terres comme Maripasoula notamment, qui est une zone de trafic de l'or. Alors, il y a plusieurs composantes dans ce mouvement et c'est là que c'est un peu complexe probablement, voire pas tant que ça si on est capable d'avoir des contacts avec des Guyanais. D'un côté, il y a les collectivités territoriales, l'éducation, la santé, qui n'ont pas les budgets. Et issus de cette pénurie budgétaire, il y a un mouvement syndical, un mouvement social qui prône la grève comme moyen d'action et qui s'est mis en grève et qui depuis aujourd'hui est en grève reconductible et générale. Et il y a donc une partie de la composante de cette mobilisation qui est sociale, syndicale, et il y a aussi une partie qui est beaucoup plus portée sur le sécuritaire, même s'il n'y a pas nécessairement aucun lien entre les deux, loin de là, hein, mais cette partie sécuritaire, c'est ce fameux mouvement des 500 frères dont on entend parler médiatiquement et dont on entend d'ailleurs majoritairement parler médiatiquement.
Alors quelque part, c'est assez malheureux, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle l'insécurité, et qu'il faudrait plus justement nommer la misère, c'est quelque chose qui existe en Guyane. La drogue, la prostitution, et quand on dit la drogue, c'est le crack, c'est la cocaïne qui peut se trouver à 7 euros le gramme sur le territoire, les armes, et en fond de tableau tout ça, l'orpaillage, où tu parlais de Maripasoula tout à l'heure, on peut avoir par exemple 400 ou 500 gendarmes présents pour 15 ou 20 000 orpailleurs. D'accord, donc c'est quelque chose de totalement ingérable. Donc oui, il y a une violence qui est extrême et qui est due pour une grande partie à la misère. Malheureusement, cette insécurité, d'accord, qui est visible à tous les niveaux, c'est un symptôme. C'est un symptôme et qui est produit par une maladie structurelle, d'accord, et qui est justement cette inadaptation de la tentative de la colonie d'assimiler un territoire et des populations. Qui n'ont d'une part pas besoin d'être assimilés et d'autre part dans un territoire où ça ne peut pas se faire parce que les conditions ne sont d'une part pas réunies et pas souhaitables. Alors malheureusement, bah, beaucoup de Guyanais, parmi les plus prolétarisés, parmi les plus fragiles en quelque sorte, pour eux déjà travailler, c'est déjà l'appartenance à une caste, c'est déjà un privilège. Et quand on parle des travailleurs en Guyane, bah justement, on ne parle pas de tout le monde. Et on ne parle pas notamment des travailleurs du sexe, on ne parle pas des travailleurs de la drogue, on ne parle pas des travailleurs de l'or, on ne parle pas des travailleurs...
Travailleurs sans papier, des milliers de travailleurs sans papier qui travaillent tous les jours.
Et qui, eux, sont pris entre deux feux, sont à la fois pris justement dans cette délinquance et contre le ras-le-bol des gens qui en ont marre de se faire braquer, cambrioler, racketter, etc., etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'une fois encore, la couverture médiatique de ce mouvement... plus que légitime, plus qu'urgent, et qui demande des mesures plus que nécessaires, eh bien, que la couverture médiatique se focalise sur ces 500 types qui sont cagoulés, dont des camarades de nos Guyanes nous disent que c'est quand même pas mal de petits patrons, pas mal d'exploitateurs, pas mal d'élus, et pas mal également d'anciens flics, ou même de flics actuellement, qui en quelque sorte se font les porte-parole d'une partie de la Guyane, d'une partie souffrante, hein, d'une partie qui mérite d'avoir des conditions de vie plus sereines, plus dignes, mais qui quand même n'est pas la partie la plus souffrante, qui est la partie créole, qui est la partie institutionnalisée, et qui, en dénonçant les délinquants, en dénonçant la délinquance, malheureusement, finalement, stigmatise une partie de la population, une partie importante de la Guyane, les migrants, d'accord, qu'ils soient bushinengués, qu'ils soient haïtiens,
ou même qui soient d'autres pays et qui, on l'espère, ne seront pas les victimes d'un État qui va décider pour caresser dans le sens du poil une partie de la population, de les monter contre une autre.
On termine là-dessus et on suivra de près ce mouvement en Guyane hein, et on vous en reparlera peut-être lundi prochain.
Voilà, et surtout courage à tous les Guyanais qui ont su trouver eh bien ici peut-être l'occasion de se mobiliser. On leur souhaite un bon courage et surtout rester unis.